Bonjour, moi c'est Karine Baumgartner et je me suis lancé un énorme défi, faire le chemin de Compostelle. Dans ce podcast, je vous propose de venir avec moi à chacun de mes pas, de la mise en route en passant par la motivation, les bobos, la météo et les rencontres. Prêt ? C'est parti, je vous emmène dans ma poche.
Épisode 3, la spiritualité.
Cela fait depuis le Moyen-Âge que des pèlerins venus de toute l'Europe se dirigent vers Compostelle. En chemin, on croise un nombre incalculable de petites chapelles, églises, cathédrales, croix ou statues. Autant de vestiges du passé qui nous rappellent qu'on n'est pas les premiers à passer par là.
Alors, ce qui fait partie aussi du truc, c'est les églises. Je suis dans celle de Bourg-Argental. Elle est assez sombre. Et elle est surtout très vide. Parfois, je vais dans les églises pour chercher de la fraîcheur.
Et aussi pour recharger mon téléphone portable, mais chut, ça, il ne faut pas trop le dire. Est-ce qu'il faut forcément être croyant, pratiquant pour faire Compostelle ? Pas du tout, me dit Olivier, l'expert du chemin.
La religion a un lien avec Compostelle, c'est évident. C'est parce que, on va voir, c'est Saint-Jacques, c'est le chemin de Saint-Jacques. Donc, par essence, c'est un chemin qui est religieux. Maintenant, il est pas pratiqué par des religieux. Il est pratiqué par des gens tout à fait normaux qui ont un rapport à la foi et à la religion qui est celui de n'importe qui. Avec peut-être, j'ai certaines petites nuances. Moi, ce qui m'a toujours amusé en France, c'est que un Français, par essence, ne va pas dire « je suis religieux ». Mais quand on lui dit « Ah, ce soir, il y a une bénédiction à la cathédrale ou à l'endroit où on arrive », étonnamment, ils sont tous là. Avant d'arriver au Puy-en-Velay, j'étais avec des gens, il y a différentes personnes qui étaient là, et je leur dis « Ah oui, mais il y a une messe demain matin à 7h à la cathédrale du Puy », une messe assez très connue par les pèlerins. Et étonnamment, ces gens qui disaient « Non, non, moi, je suis pas religieux, non, non, moi, la religion, je m'en fous, non, non, c'est pas mon monde », mais ils étaient tous là le lendemain matin à 7h à la cathédrale du Puy.
Une messe tellement connue qu'elle a aussi eu le droit à une scène dans le film Saint-Jacques-la-Mecque avec une Muriel Robin pas si convaincue que ça.
Alors les pèlerins qui prennent le chemin de Saint-Jacques, je vais maintenant vous donner le sacrement de la bénédiction. Mais nous allons d'abord faire connaissance. Peut-être chacun d'entre vous pourrait-il se présenter, nous dire d'où il vient, jusqu'où il va.
Non mais regardez-moi ce cureton avec ses boniches autour de lui. Là voilà l'église catholique. Un méga club de pédophiles et de femmes soumises, moyenne d'âge du public 75 balais. Et que je t'interdis la capote, et que ça fera bientôt 50 millions de morts du sida dans le monde. Enfin ça, le pape de Médée, il en a rien à battre, lui. Il agite son crucifix, il ramasse le fric, et les banquiers du Vatican jouent à la bourse.
Et maintenant, je vous invite à déposer vos prières dans cette urne, elles seront lues à la prochaine messe. Vous avez du papier, ici aussi. Ensuite, vous pourrez passer à la sacristie, prendre vos crédentials. Bonne route, que Dieu soit avec vous.
Alors à l'époque, chaque pèlerin, mais encore maintenant, chaque pèlerin se déplace avec ce qu'on appelle une crédentiale, un passeport de pèlerin, qui est tamponné quotidiennement. Et quand on arrive à Saint-Jacques, on présente cette crédentiale, ce passeport avec tous les tampons et on reçoit une Compostella, c'est-à-dire un certificat de pèlerinage. Et maintenant, c'est un souvenir magnifique, mais à l'époque, c'était aussi une sorte de papier d'identité. Ça permettait d'authentifier le pèlerin, de le distinguer du simple marcheur ou du simple vagabond. Et mais maintenant aussi, on utilise la Compostella pour avoir accès à des auberges de pèlerins. Par exemple, même en Suisse, on va à Gland, on va à Montprevert. On est accepté sur présentation de la crédentiale.
Une crédentiale qui permet de profiter d'une nuitée moins chère en comptant sur la générosité de certains habitants. On appelle ça un donativo. Le principe, la personne nous offre un lit et un repas sans imposer de tarif. Le pèlerin donne ce qu'il peut en fonction de sa bourse. Personnellement, je l'ai expérimenté une fois cette année. J'ai dormi chez Marie-Odile, une retraitée adorable qui habite à Bessay dans la Loire. Pour un souper, la nuit et le petit-déj, je lui ai donné 40 euros. Mais j'ai aussi voulu connaître ses motivations.
Très bien. Alors Marie-Odile, vous accueillez des pèlerins régulièrement. Comment ça a commencé tout ça?
C'est pas régulier. En fait, ça a commencé un jour. Ma fille, elle s'occupe des gîtes et de la salle des fêtes du village. Et un jour, il y avait un couple pour qui le prix du chalet était trop élevé parce qu'ils avaient un budget limité. Et ce jour-là, il pleuvait, il voulait monter la tente. Elle a pris pitié d'eux, elle m'a appelée en me disant « Maman, est-ce que tu peux héberger deux personnes, des pèlerins ?» Bon, j'ai dit « Oui, il n'y a pas de souci, j'ai de la place. » Et ça a commencé comme ça, et j'ai trouvé que c'était une aventure merveilleuse, vraiment. Et ben, j'accueille volontiers, parce que vraiment, c'est génial.
Et d'où viennent tous ces pèlerins? Il y a plusieurs nationalités, alors.
Alors, j'ai eu... Le premier couple que j'ai eu, elle était italienne. J'ai eu des Allemands, des Suisses, et puis des Français.
Et ils vous racontent un peu leur chemin. Vous discutez de quoi, le soir?
Oh, ben, on discute de ce que chacun fait... Bah, quelquefois des raisons pour lesquelles ils font le chemin, mais pas toujours, parce que bon, ils n'ont pas forcément envie d'en parler. Hein. Oui, c'est ça. Quelquefois, c'est pour des raisons très, vraiment très, très personnelles, suite à des deuils ou des choses comme ça, et ils n'ont pas forcément envie d'en parler. Donc, moi, je respecte. Je prends ce qu'ils me donnent, ce qu'ils me disent, et puis voilà. Et j'essaye de donner un petit peu, et puis voilà.
Et aujourd'hui, vous faites une journée grand-maman, c'est ça?
Aujourd'hui, c'est une journée grand-maman. Le mardi, c'est. Voilà, j'ai mon petit-fils, qui a 2 ans.
Ah, et Clément, tu veux dire quelque chose au micro?
Hein? Maman, petite sœur.
Maman, petite sœur. Ouais. Ah.
C'est justement devant une église que j'ai rencontré Piotr. Je l'ai repéré car il avait un bâton, des chaussures de marche et avait lavé 2 caleçons dans la fontaine de la place qu'il faisait sécher à l'air libre. Il faut savoir que les pèlerins sont des sortes de vagabonds, de clochards, de sans-abri qui se sentent un peu partout chez eux.
Who are you?
My name is Piotr. I am pilgrim. I come from Poland.
Je m'appelle Piotr, je suis polonais, mais j'ai commencé à Cologne, en Allemagne, jusqu'à Santiago, et maintenant, je retourne à Vienne.
Dans un mélange d'anglais et d'allemand, nous avons discuté de nos vies. Piotr n'avait rien sur lui, un sac de sport avec une fermeture éclair cassée, un sac de couchage et un foulard, des objets fonctionnels qu'on lui a donnés en route. Pas de téléphone, ni de porte-monnaie ou de guide, un dépouillement total. Ce pèlerin, qui devait avoir une 40aine d'années, avait déjà marché 3800 kilomètres. Respect.
So you're doing it. Not only, but also
tu le fais pour des raisons religieuses.
Yes, religion and also for me.
Oui, pour la religion, mais aussi pour moi. Avant, j'avais un boulot, une petite amie et une maison. Et en 2 mois, je n'avais plus rien.
That's why my best friends say to me, hey, you have nothing, you have time, go to Santiago. I said, what? To Santiago? Why?
Alors mes potes m'ont dit, comme tu n'as plus rien et que tu as du temps, va à Santiago. J'ai d'abord pensé, quoi? Mais j'aime marcher et ils m'ont montré l'itinéraire. Et je me suis dit, pourquoi pas? Et là, ça fait 4 mois que je voyage sans argent. Je vis, je mange, je dors dehors. Et maintenant, je regarde juste la météo. Et s'il pleut, je me trouve un abri et l'eau potable, au moins 2 litres d'eau par jour.
And water, you must 2 liters water. You must important and water.
Pour se mettre en chemin, il faut un déclencheur. En général, c'est un coup dur de la vie ou une période charnière où on a besoin de réponses pour continuer à avancer. Olivier confirme cette réalité.
On va trouver beaucoup de chômeurs, on va trouver beaucoup de gens qui ont été quittés, on va trouver beaucoup de gens qui ont eu un cancer, qui sont en rémission, on va trouver beaucoup de gens qui terminent leur vie professionnelle et qui ne savent pas encore de quoi leur retraite va être faite. Donc on va rencontrer des gens qui sont dans des périodes cruciales et puis qui acceptent de se mettre à nu comme ça pendant le temps d'une marche. Donc ça peut faire jusqu'à 2 mois ou 3 mois si on part de Fribourg pour Santiago par exemple. C'est 3 mois de marche. Donc, on va mettre ces 3 mois à profit pour se laver, pour imaginer autre chose et imaginer la suite. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont subi des chocs très importants, des séismes dans leur vie, qu'on va retrouver sur le chemin. Et puis, qui, pas après pas, vont retrouver un équilibre.
I changed my life. This road changed my life.
J'ai changé ma vie. Le chemin a changé ma vie. Je peux le faire.
I can make everything. But I am proud. Yes. That was amazing. For me, for my soul, I believe now.
En tellement de jours, j'ai parcouru tellement de kilomètres. Je peux maintenant tout faire. et je suis fier. Pour moi, pour mon âme, je suis croyant. Tu dois juste suivre le chemin bleu, le signe, la coquille. Je n'ai pas de téléphone, de GPS, juste des cartes. Je demande aux gens des fois, « Ah oui, c'est par ici, c'est incroyable, comme tu es guidé. »
You have just the signs, né? And you look, né? Here, oh yes, here, oh not.
You can say we never try.
C'est comme ça que petit à petit, on entre dans la famille des coquillards. Pas qu'on s'en tamponne, hein, mais lorsqu'on est un peu perdu, on n'a qu'à lever le nez et on tombera forcément sur le signe de la coquille Saint-Jacques, un coquillage qui est devenu le symbole de ce chemin.
En fait, ce coquillage, c'était la preuve que la personne était allée jusqu'au bord de la mer. Parce qu'on allait jusqu'à Fistera, Finistera, la fin des terres, un sort de cap qui fait face à l'océan. Et le pèlerin qui y allait reprenait d'abord sur place, brûlait ses habits pour montrer qu'il était devenu un homme neuf. Mais donc il revenait avec une coquille et comme ça il pouvait montrer qu'il était bien allé jusqu'au bord de l'océan. C'était ça l'histoire de cette coquille. Et maintenant, la coquille, elle est utilisée au départ. Donc les gens mettent la coquille sur leur sac quand ils partent.
C'est aussi pour avoir un sentiment d'appartenance à une communauté, pour que l'on puisse nous distinguer d'un autre marcheur quelconque. Personnellement, je n'ai pas de coquille qui pendouille à mon sac. Je ne voulais pas me charger de quelques grammes en plus. Allez, il est temps de repartir marcher.
Alors voilà, je suis en approche d'une ville qui s'appelle Montfaucon en Velay. Donc ça veut dire de nouveau des routes bétonnées, de la circulation. Mais surtout quand on lève le nez, la première chose qu'on voit souvent, et ça m'est arrivé plusieurs fois de le remarquer, c'est l'église. C'est souvent le clocher, le bâtiment le plus haut d'un village ou d'une ville. Donc c'est souvent un repère pour le pèlerin. Ce qui me fait un peu penser que tous ces pèlerinages dans l'ancien temps, tous ces pèlerinages historiques, ça a démarré au Moyen-Âge. Et effectivement, il y avait déjà des lieux de culte, comme des chapelles et des églises qui étaient présents. Et je pense que c'était aussi un moyen de se repérer pour tous les pèlerins qui faisaient le chemin jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle. Donc c'est marrant d'avoir les mêmes références, en quelque sorte. Voilà, j'arrive sur une départementale, ça c'est pas cool, j'aime pas du tout. Il n'y a pas de chemin pour nous les pèlerins, donc je vois qu'il y a à nouveau une petite raccourci.
Pas de voiture à l'époque, mais une petite plongée historique avec Olivier.
Mais il faut imaginer qu'au Moyen-Âge, il y a eu un repli extraordinaire à la fin de l'Empire romain. Pour des raisons de sécurité, c'était pas facile de voyager, il y a beaucoup de brigands, il n'y a plus la sécurité qui était à l'époque assurée par les Romains, un peu dans toute l'Europe. Et puis là, ça commençait à bouger. Les gens ont eu l'envie de retrouver, d'échanger. Et c'était l'époque où se construisaient les premières cathédrales. Et donc, on allait apprendre en se déplaçant d'Europe du Nord vers l'Espagne, de traverser la France, etc. On redécouvrait la culture européenne. Et si maintenant le chemin de Saint-Jacques est considéré comme un des premiers liens de l'Europe, un chemin qui a fait l'Europe, c'est simplement parce que ça a permis des échanges entre les moines, entre les marchands, entre les artistes, entre les bâtisseurs, etc. Ça a mis l'Europe en mouvement. Saint-Jacques, au Moyen-Âge, a mis l'Europe en mouvement.
En mouvement dans le prochain et dernier épisode. Je vous propose de nous pencher sur la douleur physique qui fait partie du processus. On verra comment soigner les bobos et prendre soin de soi pour découvrir le bonheur à chaque pas et être en harmonie avec la nature. Je me réjouis, j'espère que vous aussi.